belle fin d'après-midi avec Terre Marine, Hit and Dance Radio.
Terre Marine FM. Le son Hit and Dance.
Hit and Dance.
Il est 18h, c'est le départ de Chute. On écoute la télé comme chaque lundi, ça se passe ici avec Alain Jeanne.
Terre Marine FM. Le son Hit and Dance.
Chute, on écoute la télé, ça se passe ici maintenant sur Terre Marine. Alain, bonsoir.
Chute, on écoute la télé. Avec l'espace culturel Leclerc, votre spécialiste, centre commercial Martrou à Rochefort.
Chute, on écoute la télé. Avec l'Angélis, votre maître artisan glacier en Charente-Maritime, élu saveur de l'année 2018. Vos points de vente en Charente-Maritime sur l'angélis.com. Vente sur place également à fond couverte.
Bonjour à tous, comme chaque lundi à 18h, merci de nous rejoindre pour Chute, on écoute la télé, l'hebdo sur Terre Marine.
Chute, on écoute la télé,
le talk show radio.
Et je suis très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle émission de Chute, on écoute la télé pour prendre eh bien, le grand air à la montagne, hein, évidemment, au Festival de l'Alpe d'Huez, un festival du film de comédie où nous avons vécu une semaine extraordinaire tout au long de la semaine dernière pour revivre évidemment eh bien, nos aventures. Vous le pouvez hein, sur notre page Facebook, Chute, on écoute la télé. C'est une émission exceptionnelle que l'on vous a préparée du coup pour aujourd'hui. Mais on va commencer d'abord par nos coups de cœur télé eh bien, de cette semaine puisque nous allons recevoir dans un tout petit instant Laurent Bateau qui sera l'affiche de la série Philharmonia qui débarque mercredi sur France 2. Nous aurons également le plaisir et ça ils étaient aussi à l'Alpe d'Huez pour OCS, c'est la nouvelle création qui débarque jeudi soir, ça s'appelle Mike et là c'est dans un tout petit instant, dans quelques poignées de secondes, hein. Ils arrivent, Frédéric Hazan et Max Boublil sont avec nous aussi eh bien, pour en parler hein, de cette série Mike. Alors ensuite, évidemment, deuxième et troisième partie de l'émission consacrée au Festival de l'Alpe d'Huez avec les invités du festival, du beau monde qui seront avec nous, je vous le promets, bien évidemment. Alors on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, on va passer les audiences de la semaine dernière exceptionnellement. On ne les fera pas aujourd'hui, mais on va tout de suite accueillir Laurent Bateau pour Philharmonia.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, on va parler de Philharmonia, diffusée cette semaine sur France 2. Une immersion dans le monde de la musique classique en compagnie de Marie-Sophie Ferdan, de Lina El Arabi, Thomas Sisley et Laurent Bateau qui nous rejoint. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Alors, une série sur l'univers de la musique classique sur fond de thriller, c'est pas commun, c'est une première.
C'est la première fois, je crois que c'est mondial, hein. C'est la première fois qu'il y a une série sur la musique en dehors d'une série américaine. Avec Gaël Garcia Bernal qui est plus axé sur la comédie. Là c'est la première fois qu'on parle musique et on parle au sein d'une philharmonie, donc on parle de l'intérieur, de tout ce qui se passe dans un orchestre, dans une philharmonie, l'organisation de tout ça, comment ça marche, comment ça fonctionne et les rapports entre les gens. Et on se rend compte que ça pourrait être dans un hôpital, dans une philharmonie, dans un commissariat de police, il y a toujours des rapports humains, des choses comme ça. Et en plus, on a ce plus qui est la musique et qui nous accompagne pendant tout le long des épisodes.
Alors, 6 épisodes réalisés par Louis Choquette. On peut dire que c'est un projet hyper ambitieux avec de vrais musiciens en plus. Hein, dans les figurants, il y a certainement de vrais musiciens qui jouent réellement.
Très ambitieux. On a été accompagné par l'Orchestre d'Île-de-France. Les trois quarts des comédiens sont eux-mêmes des musiciens. Lina El Arabi a un prix de conservatoire. Marie-Sophie Cerdan joue du violon aussi. Sa sœur est chef d'orchestre. Donc elle avait une connaissance de ce métier-là. Plus ils ont été coachés bien évidemment. Et chaque musicien avait un rapport avec un instrument de musique qu'il a dû jouer qu'il a utilisé dans ce film-là. C'est très très ambitieux parce que c'est absolument pas prétentieux. C'est à la fois réaliste. Il y a beaucoup de travail qui a été fait et les gens n'ont rien lâché. C'est-à-dire que parfois, pour la fiction, on lâche des choses qui vont contre la vérité d'un métier. Là, on ne l'a pas fait. Et moi, quand j'ai lu les premiers épisodes, écrits par Marine Gassem, quand j'ai su que je faisais cette série, j'étais fou de joie. Mais fou de joie, je suis arrivé dans les bureaux de la production, j'ai embrassé tout le monde, j'étais vraiment...
Porté par le projet.
Mais vraiment porté par le projet, je découvrais que j'avais un rôle sublime, que autour de moi l'histoire était vraiment... C'est pas du reportage, mais on rentre dans l'intérieur, dans tout ce qui s'y passe, dans des choses réelles, et c'est filmé, enfin bon... J'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus, tellement je suis très très fier de cette série.
J'en ai très envie de la regarder là. Hein.
Non, mais il nous arrive des belles choses dans ce métier régulièrement. J'essaie de choisir des choses qui m'intéressent, mais de temps en temps on fait des choix puis on n'est pas toujours récompensé. Et là, bon, cette année j'ai plutôt de la chance, mais je suis très très fier de cette série.
On suit le destin, on peut dire comme ça, une conquête, une descente aux enfers et un chemin, le chemin d'Hélène Barizet, chef d'orchestre surdouée. Quel rôle vous jouez, Laurent, dedans ?
Alors moi je joue le directeur de la Philharmonie et cette chef d'orchestre me pose beaucoup de problèmes dès son arrivée. C'est-à-dire que pendant tous les épisodes, il y a des conflits avec cette chef d'orchestre. D'abord elle me coûte un fric fou. Elle vaut très très cher, elle vient de New York. C'est un milieu assez misogyne. Il y a une ou deux chefs d'orchestre au monde. Et son arrivée est très mal perçue à la fois par les musiciens et par moi. Et en plus, je la trouve un peu condescendante. Et ça m'arrange pas du tout cette arrivée-là, mais on est professionnel et on essaie de faire avec. Mais c'est vraiment très très compliqué.
On prend l'amour de la musique classique même quand on n'est pas forcément fan. Est-ce que du coup on devient mélomane après avoir tourné une série comme ça ?
Je sais pas si on devient mélomane, mais il y a une histoire d'équipe, donc ça ressemble à mon métier. Donc en ça je me reconnais dans ces gens-là qui viennent travailler leur instrument régulièrement, qui sont concentrés, qui s'entraînent tout le temps, il n'y a pas de relâche. Dans le côté passionné, ouais, je me reconnais. Après dans la musique... Non, ça change pas ce que vous êtes.
Quelle est la scène qui a été pour vous peut-être la plus... qui restera, s'il y a une scène que vous avez tournée et qui doit rester de ces 6 épisodes, ça sera laquelle pour vous ?
Ah, j'ai pas envie de parler pour moi, j'ai envie de parler d'une des scènes du premier épisode qui va scotcher tout le monde. Donc je peux pas vous en dire plus.
Qui met en scène, qui vous met en scène et d'autres comédiens avec vous ou pas ?
Non, je parle pas de moi. Une scène surprenante sur l'arrivée d'Hélène Barizet dans cet orchestre et la première fois qu'elle monte sur scène. Donc vous verrez. Et je n'y suis pas, donc je suis d'autant plus content d'en parler.
Eh bien, on va suivre ça évidemment avec attention. Là, on a eu maintenant très envie de regarder Philharmonia, c'est sur France 2. C'est l'événement, évidemment, 6 fois 52 minutes. Laurent, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et à très très vite.
À très bientôt.
Et on se retrouve bien sûr bientôt, puisque Laurent sera également à l'affiche d'Une vie après. Un nouveau téléfilm également pour Arte. À très vite, Laurent, merci.
La priorité, c'est le public jeune. Il faut casser notre image élitiste.
La nomination d'Hélène Barizet devrait nous y aider.
Pardon ?
Par exemple, dans l'article consacré à son départ du New York Symphony, elle dit justement qu'elle veut démocratiser la musique.
Elle dit aussi que la musique se partage, qu'elle ne se vend pas. C'est une blague ? Elle veut que je lui rappelle le montant de son salaire ? Bon, on en est où avec l'étude sur le prix des passes ?
Karajan, Bernstein, Mazur, prêtre. Ça se saurait si une femme pouvait diriger une centaine de musiciens avec des œuvres aussi puissantes que Wagner et Strauss.
Giacomo, calme-toi. La nomination d'une femme chef d'orchestre est un coup de com', c'est pas ma décision, ça vient d'en haut.
Et depuis quand ? T'as plus ton mot à dire, toi ? Hein ?
Le ministère est persuadé qu'il y a trop d'orchestres à Paris. Il veut en liquider un. Je te garantis que ce sera pas le mien.
Allez, jeudi, une toute nouvelle série sur OCS qui débarque. La série Mike, et on a beaucoup de chance puisqu'on a les co-auteurs, réalisateurs, comédiens, bref, ils font tout sur cette série. Et on est très heureux de les avoir. Frédéric Hazan, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et Max Boublil est avec nous, qui est un sociétaire d'émission maintenant, qu'on connaît, qu'on adore recevoir également. Bonjour Max.
Bonjour, je suis très content d'être là.
Bon, en tout cas, une série, Mike, 12 fois 26 minutes. Et donc là, effectivement, on va voir eh bien, un personnage énorme où Max a donné beaucoup de son corps. Je ne dis que ça, parce que moi j'ai eu la chance de voir déjà 2 épisodes. Et là, donc, je suis un chanceux. Et pour démarrer eh bien, cette nouvelle année, eh bien, je pense qu'on ne va pas s'ennuyer avec Mike. Ça va être une nouvelle année en fanfare, n'est-ce pas Max ?
Une nouvelle année, disons que non, mais ce qu'il faut dire c'est que voilà, c'est une série où j'ai plusieurs plans où je suis tout nu. Donc c'est vrai que j'ai donné de ma personne parce que quand j'aime, je ne compte pas. Et comme j'aimais cette série, bah, j'ai tout montré. Voilà.
On dit ça en quelques mots de Mike, Frédéric.
Alors c'est l'histoire d'un chanteur qui a eu du succès et qui est devenu has-been, quoi, un petit peu un chanteur raté, qui avait eu un gros succès. Et il essaie de reconquérir aussi bien son succès que sa femme qu'il a quittée. Et qui va se marier avec une autre femme. Et voilà, donc il essaie de reconquérir sa famille et sa carrière. Et c'est pas gagné parce qu'il a tendance à être à faire beaucoup de conneries, quoi.
Qui a eu l'idée d'écrire ce personnage de Mike ? C'est toi, Max, ou c'est Fred qui a impulsé ?
Un petit, comme une petite nouvelle. Et quand je l'ai fait lire à Fred, il m'a dit « Putain, ça ferait une super série ». C'est comme ça qu'on a eu... Et après, on a commencé à écrire tous les deux dans les troquets.
Hein, il fallait trouver un diffuseur.
Exactement. Non, c'est vrai que c'est une série qu'on a beaucoup écrite dans les bars. Même si c'est pas bien de boire, hein, les jeunes, évidemment.
L'alcool est dangereux pour la santé. Et en plus, vous avez eu votre dose pendant les fêtes, alors maintenant, faut
exactement
se calmer.
Ouais, c'est vrai que les fêtes, là, on a beaucoup bu, c'est vrai. Et donc, on est allé voir Orange parce qu'on voulait avoir beaucoup de liberté et on avait déjà un producteur qui est Cabot qui nous laissait une totale liberté. Donc, on s'est dit, on va avoir un diffuseur aussi pareil. Et donc, ça a été cool parce qu'on a travaillé en totale liberté. Je pense que ça sent à l'écran parce que c'est une série libre avec un ton. Je pense qu'on pouvait pas le faire sur une autre chaîne, en tout cas. Donc, c'est hyper libre.
C'est
voilà.
Une chaîne qui laisse faire de la comédie avec ce ton-là et qui, enfin, heureusement que ça existe pour faire des comédies différentes, quoi. C'est la seule chaîne où on peut avoir un ton différent.
Alors, t'aimes bien les personnages décalés. C'est vrai que Mike, quand même, c'est, voilà, hein, sa dose de décalé. Vous jouez, il y a beaucoup de scènes où vous jouez beaucoup tous les deux. Exactement. Quelle a été la scène la plus drôle ou la plus difficile, du coup, à mettre en boîte? Où il a fallu faire 10, 15, 20 prises?
La plus difficile pour moi, c'était la scène d'ouverture de la série où je suis tout nu dans la rue, parce que quand tu l'écris dans un café, c'est rigolo. Et puis quand tu te balades...
La jouer, c'est autre chose, hein.
Ah ouais, quand il est 7h du matin, que t'es dans le 14e à Paris et que tu dois montrer ton sgeg, hein, ça s'appelle comme ça, à toute une équipe, c'est pas évident. Surtout que les gens, ils me demandaient des selfies, même si j'étais à poil. Donc c'était pas... Ouais.
Et on est que le haut, rassure-moi.
Oui. Bah oui, parce que ça ne rentrait pas dans l'appareil photo. Voilà. Tu voulais ce genre de.
Évidemment.
Là, tu les as. Voilà.
Bon, il est prêt pour la saison 2 de nu, en tout cas. J'ai bien vu. Il est paré là.
Non, c'est vrai qu'il y a pas mal de nus de garçons dans la série. Ça intéresse des gens, parce qu'il y a beaucoup de garçons tout nus. C'est vrai. Il y a Max, il y a moi, et voilà. Et Ryan Gosling aussi, qui passera dans l'épisode 5. Voilà.
Donc il y a des guests.
Ouais. Il y a des guests. Il y a Philippe Catherine. Il y a Richard Berry, Claire Nadeau, Sinclair.
Claire Nadeau, exceptionnel. Ouais, ouais. Je l'ai vu, franchement, mais Claire, elle est exceptionnelle. Là encore, après Mamissus des Tuches, ouais, là, vrai. Franchement, on la voit encore dans une palette assez drôle. On espère la recevoir d'ailleurs peut-être bientôt, Claire. Non, mais en tout cas, excellente comédienne.
Et on s'est bien marré sur le tournage avec elle. Et ça a été un super moment. C'est la femme de Richard Berry dans la série. Ouais. Pas en vrai, hein, mais dans la série, c'est un couple. C'est les parents de Mike. Et ils sont très bizarres. Ils sont un petit peu couple libre. Donc voilà, ils ont chacun des relations de leur côté. Et non, on vous dit pas tout, mais en tout cas, c'est plutôt... ils sont très marrants comme parents, non?
Ouais. Mais Mike est pas tout seul. Mais il y a une jeune fille.
Il a son amour de toujours avec qui il a eu un enfant. Donc c'est un papa. C'est un papa divorcé qui aimerait reconquérir son ex-femme et retrouver sa famille. Mais entre-temps, bien sûr, il tombe amoureux d'une autre jeune fille avec qui il a une petite idylle qui est jouée par une actrice qui s'appelle Leslie Medina. Et voilà, et ça, c'est son... Oui, donc il y a une autre fille à un moment. Mais son amour de toujours, c'est Caroline. Et il a une fille, oui, c'est un papa, surtout. Et c'est surtout un papa qui voit sa fille en train de grandir. Et lui, il régresse, alors que sa fille est plutôt...
Progresse.
De grandir, ouais.
Le casting, comment vous l'avez fait, justement? Pour vous entourer, parce que comme tous les deux, vous avez écrit, réalisé, est-ce que vous aviez déjà des idées bien précises, des personnes que vous vouliez qui incarnent vos personnages?
Oui, pour les guests, on pensait déjà à Richard, à Claire, à Catherine et tout, à Philippe Catherine, donc on leur a fait lire, et ça s'est super bien passé, tout le monde a dit oui assez rapidement, donc ça c'est vraiment cool, parce que c'est allé assez vite. Après, pour les autres personnages, c'est vrai que les castings, on est resté 3 mois en casting, ça a été très long de caster l'ex-femme de Mike, qui est jouée par Gwendoline Gourvenec, sa nouvelle petite amie Leslie Medina, sa fille Liona. Ah ouais, ça a été assez long comme casting.
Alors ces 12 premiers épisodes là, on va les voir durant tout ce mois de janvier. Mais moi j'ai une question quand même, parce que quand on a une saison 1 qui se livre comme ça au public, j'imagine que vous travaillez déjà peut-être sur une saison 2. Est-ce que vous avez des rêves de guests sur cette saison 2? Est-ce que vous avez envie d'accueillir des gens que vous rêvez?
Oui, en fait, de par le sujet de la série, l'idée c'est d'avoir des guests chanteurs, quoi, musiciens. Et donc c'est vrai qu'on avait eu quelques idées. Hein. Max, t'avais pensé avec qui toi?
Patrick Bruel, on aimerait vraiment l'avoir.
En tant que Patrick Bruel, enfin qui jouerait son propre
rôle. Voilà.
Le rôle d'un jeune chanteur d'une trentaine d'années.
Qui on avait dit Enrico Macias aussi.
Ah ouais, parce on aimerait bien avoir Enrico aussi. Voilà. Parce qu'on adore Enrico, parce qu'il parle comme ça. Ouais.
Bien, hein. Avec l'accent encore.
Excellente imitation. Bon, en tout cas, on va vous suivre évidemment dès jeudi. 2019 pour toi, Max. Est-ce qu'on va te voir au cinéma? Est-ce qu'il y a des choses qui sont tournées?
Un film qui s'appelle Play de mon copain Anthony Marciano, aux côtés de Noémie Lvovsky qui fait ma maman. Et voilà, et un très joli casting. Et c'est un très joli film qui parle de la vie de tous les 30-40-naires aujourd'hui, puisque c'est un film qui retrace la vie d'un mec qui a eu une caméra à 12 ans jusqu'à ses 40 ans.
Ça sortira?
A priori le 1er mai.
Et bien voilà, le rendez-vous est pris. En tout cas, maintenant, c'est la bande-annonce de Mike, parce que ça, c'est jeudi, et c'est sur OCS. Merci à tous les deux.
Bonne année.
OCS Signature à son nouveau héros.
De toute façon, j'aimerais qu'une seule fille dans ma vie, c'est toi. T'es belle, t'es drôle. Pardonne-moi, je suis une merde. Je la connais pas. Elle ronfle en plus.
Mike.
Tu veux que je reste ton manager, faut te foutre au boulot.
Ça, c'est rock'n'roll. De la merde.
Boulot pour qui? Y a plus personne qui s'intéresse à moi.
T'as rien sorti depuis 10 ans, alors là, t'es plus que mort.
Il a été une star, mais là...
Tu vois pas que tu perturbes tout le monde? Caro, ta fille, t'es toxique.
Tu as 29 ans maintenant.
J'ai 37 ans, papa.
Oui, c'est ça.
Il se cherche un avenir.
J'ai un très gros rendez-vous pour toi, je t'appelle.
Tu veux quoi?
Bah, je veux faire un duo avec toi.
Ouais, ce serait bien, ouais.
Une bifle, la bifle, 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 une bifle.
Je sais pas ce qui s'est passé, ça a dérapé.
Mike, saison 1 sur OCS.
Voilà pour nos deux coups de cœur télé de cette semaine. Allez, je vous emmène dans 3 minutes au Grand Air. C'est le festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez avec tous nos invités. On revient dans 3 minutes, alors à tout de suite dans Chut, on écoute la télé.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite.
On est vraiment bien sans
I just haven't met you yet.
Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, de retour dans Chut, on écoute la télé pour la partie 2 de cette émission et je vous embarque avec moi direction l'Alpe d'Huez et direction la 22e édition du Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez avec une édition spéciale évidemment qui va démarrer dans un instant avec Aramanis qui était coup de projecteur sur le festival justement et qui est aussi responsable artistique du Golden Moustache. C'est le premier média humour sur internet avec plus de 6 millions de vues. Nous aurons le plaisir de recevoir à l'occasion de la diffusion d'Infidèle, eh bien nous avons rencontré pour vous et elle sera avec nous donc d'ici quelques instants, c'est Chloé Joanet et le final d'Infidèle c'est ce soir évidemment sur TF1. Nous parlerons également de notre coup de cœur ciné de cette semaine. On est à la montagne, on pouvait pas faire autrement, c'est les petits flocons avec Joséphine Demeaux qui sera avec nous et qui sera accompagnée de Gustave Kervernes et de Grégoire Ludic du Palmachot. Rendez-vous donc à ne pas manquer. Et puis en fin d'émission, eh bien nous déroulerons ensemble le palmarès, évidemment, de cette 22e édition, avec le bilan d'Alexandre Alamy et de Anne-Marie Vin qui seront avec nous. Nous aurons également les réactions exclusives de tous les lauréats, Alad Mauduit, également l'équipe du court-métrage, l'équipe des crevettes pailletées de Lisa Azuelos, de Mohamed Hamidi, de Sandrine Kiberlin, et on terminera cette émission spéciale avec Jean-Yves Noiré, le maire de l'Alpe d'Huez. Alors on démarre tout de suite, sans plus tarder, si vous voulez bien, notre spécial, c'est parti.
Chut, on écoute la télé, spécial festival.
Allez, un petit mot sur Infidèle, évidemment, le final c'est ce soir sur TF1 à partir de 21h10. Vous avez suivi les deux derniers épisodes, alors vous avez vu, avec Jonathan Zakaï, Claire Kem et justement Chloé Joanet qui nous rejoint. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors le personnage de Candice, eh bien, c'est celui qui a semé la pagaille dans le couple incarné par Claire Kem et Jonathan Zakaï.
Bah, je sais pas si c'est mon personnage qui sème la pagaille ou un peu plus celui de Jonathan quand même, parce que il est aussi responsable de ses actes. Je trouve ça toujours facile dans l'adultère, entre guillemets, d'en vouloir au plus sain qui se rajoute à la maîtresse ou, et donc du coup, non, je pense que c'est plus Jonathan qui devrait se remettre en question.
Camille la pagaille dans son couple. Ouais. Alors là, en plus, on a vraiment quitté les deux derniers épisodes de lundi dernier sous un suspense insoutenable, puisque là, on a découvert qu'il avait hypothéqué carrément la maison familiale. Alors, est-ce que Candice va avorter? C'est ce qu'on verra, évidemment. Qu'est-ce qui va se passer dans les deux épisodes, dans ces deux derniers et ce final? Comment tu es arrivée dans cette série, déjà, Chloé, puisque c'est ton premier grand rôle dans une série télé?
Je suis rentrée, dans cette série de manière simple, c'est-à-dire que mon agent m'a appelée pour me demander de passer un casting pour une série TF1 avec Claire Kem et Jonathan Zakaï. C'est vrai que moi j'adore le travail de Jonathan et j'avais vraiment envie de travailler avec lui. Donc j'ai passé le casting, ça leur a plu et après on a fait une lecture, on s'est tous rencontrés et voilà.
Alors quel souvenir tu gardes de ce tournage sur la côte basque, sur notre région de Nouvelle-Aquitaine, Chloé?
Le tournage s'est super bien passé, c'est vrai que moi je connaissais pas du tout cette région, donc franchement c'était super, on n'a pas eu trop le temps de faire du surf ou quoi que ce soit, mais on était tous à l'hôtel, tous ensemble, en face de la mer, et c'était quand même super sympa quoi.
On se demandait au début, sur les deux premiers épisodes, où c'est que ça allait aller. On pouvait aussi imaginer avoir peur que l'infidélité, ça soit dur à tenir sur la longueur. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a des rebondissements à chaque épisode. Et alors, les épisodes 3 et 4 ont vraiment été encore un levier vers ce final qu'on va voir ce soir. Quelle a été pour toi la scène la plus difficile ou que tu affectionnes particulièrement sur ces 6 épisodes?
Une des scènes que j'ai vraiment aimé tourner, c'est avec celle qui fait mon amie dans la série, Sandra Parfait, avec qui je me suis d'ailleurs super bien entendue, qui joue du coup un peu la seule qui connaît mon histoire sur le fait que je sois enceinte et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a eu une scène où quand je lui demande de m'accompagner pour me faire avorter, je suis un petit peu perdue, je suis pas sûre de ce que j'ai envie de faire. Je pense que ouais, ça a été une scène que j'ai bien aimé tourner parce que c'est pas forcément des choses faciles à demander et surtout quand t'as 20 ans et que t'aimes un homme qu'on a le double et qui est pas forcément inclus dans ton histoire quoi.
Comment tu le définirais le personnage de Candice ?
Je pense que c'est une fille qui a tout simplement 20 ans, qui est amoureuse d'un homme qui quelque part représente pour elle cette facilité, ce pouvoir, c'est-à-dire que pour une fille de 20 ans de sortir avec un homme marié et comme ça, je pense pas que ça soit le fait qu'il soit marié, c'est le côté plus il la rend indépendante, il la rend adulte.
Alors c'est une adaptation de la série Dr. Foster qui a eu 3 saisons. Alors ce soir, on peut imaginer que c'est la fin d'une saison et peut-être le début bientôt d'une autre. Alors voilà, la question cruciale, est-ce que une saison 2 est sur les rangs déjà ?
Peut-être. Moi honnêtement, s'il y a une saison 2, c'est sûr que j'aurais envie d'en faire partie parce que déjà j'ai adoré travailler avec Jonathan, c'était un super duo et même c'était la première fois moi que j'avais un réel amoureux aussi dans une série ou dans un film. Donc il a été tellement bienveillant avec moi. Je le connaissais déjà d'avant et vraiment ça a été mon pilier dans cette série. Donc rien que pour ça, j'aurais envie de encore travailler avec lui, oui, c'est sûr.
Alors même si tu as des parents qui sont dans ce métier-là, est-ce qu'ils ont donné des conseils ?
C'est une question qui revient souvent. Oui, comme tous parents donnent conseils à leurs enfants, moi c'est sûr que je pense que ils avaient même pas besoin de me donner des conseils dans le sens où je les ai vus, voilà, j'ai grandi en les regardant jouer, en les regardant aimer leur métier, en les regardant.
Et ça t'a nourri au fur et à mesure.
Oui, c'est sûr, quand j'étais petite, je voulais pas être actrice parce que je me disais ma mère est actrice, mon père est acteur, ma tante est actrice, ça fait quand même vachement. Donc ma belle-mère aussi est actrice, maintenant mon amoureux aussi est acteur, je me dis bon, je m'entoure vraiment que de ça. Et je me disais Chloé, c'est pas possible, tu vas pas faire pareil que tout le monde quand même. Et en fait, bah si, j'adore ce métier, je suis tombée dedans et ça m'a toujours plu. J'ai toujours aimé quand j'étais petite, même faire des petites pièces de théâtre avec mes petits frères ou mes petites sœurs. C'est important, quoi. C'est un métier qui est très important pour moi. C'est vraiment quelque chose qui me rend aujourd'hui très heureuse et je remercie mes parents de m'avoir offert la chance de me dire vas-y, fonce et pas d'avoir peur de ce métier. En même temps, ils pouvaient pas, ils en faisaient partie.
Donc vous avez suivi les 4 premiers. Ne ratez pas, c'est les 2 ultimes épisodes ce soir de la saison 1 et peut-être le début d'une autre aventure. C'est ce qu'on verra en tout cas. Ce soir, le final d'Infidèle, c'est sur TF1. Merci Chloé.
Merci beaucoup.
Tu m'as trahi, il m'a menti. Il m'a menti surtout. Comment c'est possible que j'ai rien vu ?
Je te trompe, c'est ça ? Qu'est-ce qui se passe ?
Ce soir, j'ai tout perdu. J'ai hâte de voir ta tête quand ça t'arrivera.
Je me battrai.
Je suis prête.
Inédit, Infidèle, une création TF1. Lundi à 21h.
Allez, le festival de l'Alpe d'Huez, c'est aussi des coups de projecteur. Tous les ans, 4 coups de projecteur pour permettre, à 4 personnalités, de se faire connaître du grand public et en même temps des comédiens qui sont présents. Et c'est Anis qui est avec nous. Bonjour Anis.
Bonjour.
Merci d'être là. Alors, principalement, on te connaît pour le Golden Moustache, qui est un collectif. On peut dire, je crois que c'est très connu parce que c'est le premier média d'humour sur Internet, sur YouTube, hein.
Ouais, ça se la raconte un peu de dire ça, mais ouais, c'est nous, ouais, enchanté.
Oui, non, mais c'est bien de le dire parce que aujourd'hui, pour ceux qui connaissent pas, ça a pris une ampleur très très vite, le collectif du Golden Moustache. Est-ce que tu peux nous le présenter justement, ce collectif, en quelques mots?
On existe depuis 6-7 ans. En effet, ça a eu un buzz pas mal dans les années 2012-2013. Et depuis, voilà, on est l'une des références fiction de YouTube parce que c'est de plus en plus rare sur YouTube d'ailleurs. Mais voilà, nous on continue de faire de la fiction, du court-métrage et avec un ton plutôt humoristique. En général, voilà, c'est ça.
Alors allez voir les vidéos, hein, vous allez vraiment rire. Mais est-ce qu'il y a une vidéo qui a permis au Golden Moustache de se démarquer peut-être encore plus ou qui a été un tournant justement dans la vie du collectif?
Ouais, je dirais même pour leur rendre hommage, hein, il y a un collectif, au sein même du collectif, là ça devient compliqué, qui s'appelle Suricat et qui ont fait des vidéos, mais je peux les citer, il y en a deux, trois qui ont vraiment eu un buzz à cette époque-là. Il y en a une, c'était la vie sexuelle des jeux vidéo, donc tu mélanges jeux vidéo et sexe, boom total, c'était obligé que ça marche. Il y avait aussi un truc qui s'appelait Super-Héros Hangover, et c'était des super-héros après avoir fait une grosse soirée qui ont la gueule de bois. Donc c'était assez marrant et assez bien fait, ouais.
Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être justement des quatre coups projecteurs de ce festival de Alpe d'Huez ?
Bah c'est une chance, hein, vraiment. Moi dans mon métier, j'ai plus vraiment le temps de consommer du cinéma. Donc là je suis là pour mater plein de films, donc je suis en train de kiffer. En plus il y a du ski, en plus il y a du fromage, je ne peux que kiffer.
Alors justement, puisque c'est un média YouTube sur Internet, ça c'est nouveau, il y a plein aussi de web-séries qui arrivent hein, sur Internet et ça prend une place de plus en plus importante. Est-ce que toi tu es très présent sur les réseaux sociaux ? Est-ce que tu profites justement de ces bénéfices ? Et quels en sont les travers justement aussi pour ceux qui voudraient se lancer dans ce genre de choses ?
Ce qui est intéressant avec les réseaux sociaux, c'est que tu n'as besoin de personne en général, donc c'est le gros point fort. Donc j'encourage les gens à, s'ils veulent se lancer seuls, bah voilà, ils ont une caméra dans leur téléphone en général, donc c'est le gros avantage, on peut se filmer tout seul, etc. Et après, oui, ce qui est un peu dangereux, c'est de devenir, comment dire, un peu esclave de ce qu'on est censé faire. Donc que ça devienne routine, qu'on le fasse pour gagner en abonnés, etc. Donc c'est tout un équilibre entre trouver ce qui nous fait marrer et le faire les bons moments et ne pas que ça prenne le pas sur toute notre vie, ce qui peut arriver.
Quelles sont tes aspirations maintenant ? T'as envie de faire du cinéma ? T'aurais envie de faire une série télé, de faire une web-série, de réaliser ?
Bah, j'ai énormément de déférence pour tout ce que bah, je suis en train de voir, là, le cinéma, tout ça, etc. Mais c'est vrai que moi, je suis un des rares mecs de l'école. Bah, si je reste sur Internet toute ma vie, bah, c'est pas grave. Je vois pas Internet comme un
tremplin vers autre chose.
C'est ça, pour moi, Internet, ça peut être une finalité en soi. J'ai de la chance de pouvoir être payé pour écrire, réaliser, jouer dans des vidéos. Si ça dure toute ma vie, bah, je vais jamais cracher dessus. Et si, bien entendu, bah, on me propose un rôle dans le cinéma, on me propose autre chose, c'est ça, c'est... On est vraiment en train de créer notre métier, donc on peut pas vraiment se dire, bah en fait, le plan sur 50 ans, c'est de faire. On découvre, on vous dira dans 50 ans. Ça se trouve, ça tient que 5 ans, je vous dirais, mais je vous redis dans 50 ans.
T'as des projets dans ce sens ? Quels sont tes projets pour les mois, les semaines à venir ?
Bah, moi, depuis très peu, j'ai récupéré la direction artistique de la chaîne Golden Moustache. Donc en vrai, Golden Moustache, c'est 80% de mon temps. Et du coup, les projets en ce sens, bah, c'est de m'occuper à faire les prochaines grosses vidéos de Golden Moustache. Et du coup, bah, l'idée. Qui arrive, c'est de faire des vidéos les plus ambitieuses, essayer d'aller de plus en plus loin, aller explorer des choses qu'on n'a jamais fait, comme de l'animation, etc. Donc mon idée là, c'est d'ouvrir nos chakras dans l'art.
Bon, et comment tu t'es entendu alors avec les trois filles ? Parce que t'étais le seul garçon hein, de ces quatre talents, ça n'a pas dû être facile tous les jours.
Bah ouais, je m'en rends compte, je m'en étais pas rendu compte avant, je suis le seul gars.
On a pas signé, sinon.
non, mais j'ai un peu influencé dans le fait qu'on soit avec elle, je trouvais ça cool qu'il y ait une majorité de filles plus que de mecs, mais j'avais pas pensé que je deviendrais le seul mec en l'occurrence. Et non, c'est très cool, en tant que directeur artistique, c'est des gens avec qui j'ai l'habitude de bosser, que je comprends, etc. Donc il y a pas de problème et puis je suis pas dans leur chambre donc j'ai que la bonne partie, je pense.
Bon, en tout cas, pour te retrouver, c'est facile hein, vous allez sur YouTube hein, vous tapez Golden Moustache et vous pourrez voir toutes les vidéos évidemment de ce collectif. Merci Anis d'avoir été avec nous.
Bah merci à vous, c'était très cool.
Et si vous connaissez pas le Golden Moustache, bah tiens, écoutez, c'est pour vous.
Oh putain. Non, je suis désolé, j'ai cru que j'avais été pris en otage par des musulmans, Non, c'est...
Quoi ?
Vous voulez dire terroriste, non ?
Ouais ?
C'est ce que je viens de dire, ouais.
Non, justement, vous avez dit...
Oh, qu'est-ce qu'ils veulent, là ? On est où ? Il se passe quoi ?
Eh bah... Je sais pas trop, je viens de me réveiller aussi, mais en regardant autour, ce qui est sûr, c'est qu'on a affaire à un psychopathe.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné, évidemment, hein, au Festival de Alpe d'Huez, on pouvait pas passer à côté, ça sort mercredi au cinéma. C'est le premier film de Joséphine Demeau et on a la chance de recevoir l'équipe avec nous ici pour cette spéciale festival. Bonjour Joséphine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Pour la deuxième fois de l'année, Gustave Carverne est avec nous. Après I Feel Good, c'est Petit Flocon. Bonjour Gustave.
Oui, bonjour, bon, salut Alain.
Merci d'être avec nous. Et Grégoire Ludig, qu'on retrouve après la folle histoire de Max et Léon. C'est avec plaisir que je te retrouve. Bonjour Grégoire.
Eh ben, pareil pour moi. Bonjour, ça va Alain ?
Ça va très très bien. Alors on va parler évidemment de cette histoire des petits flocons, mais d'abord un premier film. Joséphine, où est venue l'idée et comment ça se monte un premier film ? Raconte-nous.
Oula, alors juste pour vous donner une petite idée, j'ai commencé à travailler sur ce film il y a 6 ans. Voilà, ça aura fait 6 ans en tout. En février 2013, j'ai commencé et le film sort donc dans 2 jours. C'est venu du fait que moi, quand j'étais petite, j'adorais mes moniteurs. J'étais systématiquement amoureuse de mes moniteurs de ski. Voilà, j'avais un truc avec eux. C'était mon petit plaisir à moi, quoi. Et j'ai gardé très longtemps ces souvenirs merveilleux au fond de mon cœur. Et un jour, une fois adulte, j'étais sur mon canapé en train de déprimer. Et je me suis dit, mais putain, la vie est vraiment horrible, quoi. J'imaginais pas du tout ça. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai repensé à ces cours de ski et je me suis dit, mais c'est fou, pourquoi c'était si bien à l'époque et pourquoi c'est si pourri aujourd'hui? Et là, tilt, je me suis dit, mais en fait, c'est justement à cause des moniteurs si ma vie est pourrie aujourd'hui, parce qu'ils m'ont fait croire que la vie c'était glisser derrière un beau moniteur qui vous fait des blagues, qui vous relève quand vous tombez, voilà. Alors qu'en fait, ils sont plus là après. Donc voilà, ils se sont foutus de ma gueule et ils m'ont envoyé sur une mauvaise piste. Donc j'ai le syndrome du moniteur de ski. Et je pensais faire appel à un concept existant, enfin un syndrome. Et là, je me suis rendu compte que non. Et du coup, j'ai eu envie de créer une histoire à partir de ce syndrome qui est en fait voilà, le paradis perdu de l'enfance et qui me touchait. Et puis quand j'en parlais aux gens, voilà, ça les amusait. Et j'ai fait un documentaire pour essayer de prouver l'existence de ce syndrome. Et à côté de ça, moi, j'ai commencé à développer ce film. Et j'ai voulu que cette femme qui traverse une crise existentielle très profonde revive son enfance par l'intermédiaire de sa petite fille qui tombe pour la première fois amoureuse de son moniteur. Voilà.
Alors évidemment, ton mari est joué par Thomas Grégoire Ludig qui est avec nous. Alors comment t'es arrivé dans cette aventure? Est-ce que c'est Joséphine qui t'a appelé? Comment s'est passé votre rencontre à tous les deux? Ou est-ce que vous vous connaissiez avant?
On se connaissait, on avait tourné dans un film ensemble, mais on s'était pas vraiment rencontrés, on va dire. Et j'ai rencontré Joséphine qui m'a appelé, qui m'a demandé qu'on se voit. On s'est rencontrés dans un café, on a discuté, elle m'a parlé du scénario et surtout du pourquoi. C'était quelque chose qui m'a beaucoup touché, en fait. J'ai pas mis beaucoup de temps à accepter, je sais pas, même... Non, mais c'est vrai, la façon dont elle m'a raconté l'histoire, c'était vraiment quelque chose qui l'a touché vraiment. Et voilà, et j'ai eu envie de découvrir un petit peu tout cet univers avec elle. Et d'autant plus que moi, à l'inverse de Joséphine, j'ai un sentiment complètement contraire avec les moniteurs de ski. C'est-à-dire que moi, il y en a un qui m'a plus traumatisé qu'autre chose. Je leur voue pas un culte, quoi. Voilà, moi je ressentais pas ça du tout. Et justement, ça m'a donné envie de m'y intéresser. Et Joséphine n'a pas eu besoin d'y mettre toutes les formes, j'ai été conquis assez rapidement.
Gustave, ça s'est passé pareil pour toi? Tu joues le rôle de Samy, un ex-tolard qui arrive, qui va faire un peu imploser cette famille et qui en même temps va peut-être l'aider à se reconstruire. Ça, c'est ce qu'on verra au fur et à mesure du film.
Ouais, c'est ça. Quand j'accepte de faire un film, c'est en général parce qu'il y a un truc en plus, une singularité qui me plaît. Parce que je vous cache pas que le fait de que ce soit tourné au ski, dans une station de ski à la base, ça me faisait peur, parce que moi j'aime pas ça du tout. Je déteste le ski, j'aime pas ça parce que je suis né à l'île Maurice, j'aime pas avoir froid, tout ça m'énerve. Donc et puis je suis assez stressé moi pour accepter un projet, c'est pas si évident que ça, je suis timide, enfin bref. Et donc, il a fallu que Joséphine m'écrive une lettre, arrive à me convaincre avec des beaux mots.
Avec le cœur.
Avec le cœur, oui, tout à fait. Et c'est vrai que moi, je fais pas mal de premiers films, parce que, en fait, les premiers films, en général, on met beaucoup de soi-même. Moi, j'aime bien les films où il y a vraiment une intensité intellectuelle et émotionnelle de la part du réalisateur. Donc, pour ça, les premiers films, c'est souvent comme ça. Et voilà, donc j'ai été convaincu après assez rapidement. Et puis je suis sensible, donc l'émotion de Joséphine m'a tout de suite plu. Et j'ai foncé dans le projet après.
Ah, vous allez beaucoup rire aussi dans ce film. On va écouter tout de suite la bande-annonce et on revient avec toi, Joséphine. Tu vas nous parler de Vanda, évidemment. On écoute.
Je peux pas skier, je prends des anticoagulants, j'ai une phlébite.
Bonne journée, hein, Capitaine Crochet.
Et Capitaine Crochet, il a un problème à la main, hein.
Pas au pied.
Une blague, mon gars.
Je suis pas un acteur, pas un sportif, parce que je suis une grosse chanteuse égyptienne.
Non, je suis...
Gros.
Oui.
François Hollande.
Ouais.
Bonjour, Samy.
Donc, au détenu, il adorait cette phlébite.
Pourquoi?
Il a mangé les jambes de sa femme.
Ah.
Avec la mienne, il aurait été calé. Il en aurait pas repris deux fois. T'as vu Céleste?
Quoi, Céleste?
Elle est amoureuse de son moniteur de ski.
Qu'est-ce qu'il a, Thierry?
Il arrête pas de la faire rire, il a une super tête, donc voilà, ça va bien.
C'est la crise de la quarantaine, ça, non?
Bon, rien à voir, j'ai 38 ans.
Alors, je crois que t'as mis beaucoup de toi dans Vanda, Joséphine.
Oui, oui, bien sûr, j'ai mis beaucoup de moi, et notamment ma phlébite. J'ai eu une phlébite il y a 6 ans, au début de ce projet, et voilà, et j'avais envie de créer un personnage...
rien de sexuel, hein, comme dirait ta fille.
Bien sûr, rien de sexuel, malgré le...
Quoique, qui dit Grégoire.
En fait, j'avais à cœur de créer un personnage qui boitait, quoi, qui avait vraiment des difficultés dans la vie, parce que je suis très touchée par les gens qui n'y arrivent pas, ou qui arrivent juste un peu dans un monde où on a quand même énormément de pression, où il faudrait être souriant et gagnant tout le temps. Voilà, je pense que c'est le cas quand même de très très peu de gens. On s'en rend compte d'autant plus aujourd'hui. Donc voilà, je voulais créer ça, et voilà, j'avais pas envie d'une Wanda toute seule, et je voulais l'associer à des personnages très forts et qui puissent. Donc je me suis dit, voilà, qui est-ce qui peut être à l'inverse d'une femme qui a la nostalgie de son enfance, qui est encore la petite fille qu'elle était, ben ça pourrait être par exemple un mec qui sort juste de prison. Et donc voilà, est apparu ce personnage de Samy, et je trouvais ça beau de les mettre ensemble, quoi. C'est une sorte de couple un peu de comédie. Ils ont un pathétisme. Elle souffre du cœur et du cerveau et de sa grosse jambe, et lui, il souffre parce qu'il a plus rien et parce qu'il doit tout recommencer à l'âge qu'il a après 8 ans de prison. Et donc voilà, c'est un couple un peu clownesque aussi. C'est tous les deux des boiteux de la vie, quoi. À côté de ça, il y a Thomas, le mari de Wanda, qui lui est censé être le mec qui porte tout, quoi, comme les mecs d'aujourd'hui, ils sont costauds, voilà. Donc on peut tirer sur la corde, hein. En face, Wanda, elle se gêne pas pour le pousser vraiment à fond dans ses limites, avec ses névroses. Et puis il y a un moment, il craque, et puis en fait, c'est vraiment bien qu'il craque, et c'est Salvateur qui craque, parce que tout le monde va se renouveler à travers cette histoire qui va sortir de la piste, quoi.
Alors, tu as coécrit le scénario avec notamment Jeanne Herry, à qui l'on doit l'excellent film Pupille, également avec Benjamin Charby. Tu as pensé à tous les deux dès que tu es à l'écriture déjà. Tu avais dans ton idée Gustave et Grégoire.
Non, pas du tout. J'avais pas d'acteur en tête pour l'écriture, et je pense que la plupart du temps, je crois que vaut mieux n'avoir personne en tête. Bon, si on a trop une personne en tête, forcément, on est influencé par ce qu'il est, et ce qui est beau à la fin, c'est de créer un personnage qui est loin de l'acteur.
C'est marrant, parce que moi, quand on écrit des films, nous, par exemple, avec Benoît de Lépine, on peut pas écrire si on n'a pas les acteurs avant, mais comme quoi, ça, il y a plusieurs façons.
Il y a plusieurs écoles, hein, ça c'est vrai. Tous les deux, j'ai envie de vous demander votre scène la plus drôle ou celle où vous êtes le plus amusé, Gustave.
Un film comique, comme beaucoup de gens vous le diront, on s'amuse pas vraiment, c'est un vrai boulot, et donc
c'est plus compliqué.
Ouais, c'est plus compliqué, et puis on rigole bien sûr entre les prises et tout ça. Enfin, pour moi, c'est un de mes meilleurs tournages en termes d'ambiance générale, quoi. Enfin, on s'est bien marré, mais parce qu'il y avait des tempêtes de neige, enfin c'était assez bordélique, hein.
Tout ce que t'aimes.
Ouais, tout ce que j'aime. Non, mais figure-toi que après ce film, je renoue avec la montagne, avec le ski. J'ai tellement aimé vivre en autarcie, parce qu'on était vraiment coupé du monde avec ces tempêtes de neige, que je me baladais dans la station. J'ai rencontré plein de mecs qui zonaient, des saisonniers. Enfin, moi j'aime bien tout ce monde-là. Donc j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas, et du coup ça m'a vraiment plu. Maintenant ça y est, je suis gagné par le syndrome de pas du moniteur de ski, mais de la montagne. Ça, je suis accro maintenant.
Ça a été salvateur tout ça. Grégoire, pour toi, donc, est-ce qu'il y a une scène particulière qui ressort, que tu garderas en tête?
Oui, alors elle était la première scène, en fait, qu'on a tournée, enfin la deuxième. La première scène qu'on a tournée, le premier jour du tournage, c'était la scène des forfaits, donc au début du film. Et après, la nuit, c'était l'engueulade, donc avec Wanda, donc Thomas et Wanda dehors. Et il neigeait. On était en retard de 3 heures, je crois, déjà, pour le premier jour de tournage.
Ça fout mal.
Et il fallait qu'on se mette dans un état assez profond dès la première nuit de tournage, et avec les conditions climatiques, et puis avec les deux, le couple de retraités qui passent, qui viennent donner un élément de comédie, enfin de drôlerie dans cette scène. J'ai bien aimé, parce que en fait dès le début, c'est un petit peu ce que disait Gustave tout à l'heure, en fait on était dedans dès le départ, quoi. Là, il fallait qu'on y aille tout de suite, donc c'était. Mais je pense que c'était un peu à l'image du tournage, en fait. Oui. On était. Allez, c'est bon, tout le monde est prêt. Bah, allez, c'est parti pour un mois, et on se revoit dans un mois, quoi. Donc celle-là était, on va dire, assez intense dès le départ.
De beaux souvenirs, un tournage à la montagne, des beaux paysages, une belle histoire. C'est ce que vous verrez mercredi au cinéma. Je vous remercie infiniment tous les trois d'être venus. Merci Gustave, merci Joséphine, merci Grégoire, et on va réécouter un tout petit extrait tout de suite. Les petits flocons, c'est mercredi au cinéma. À très vite.
Merci beaucoup.
À très vite, merci.
Salut, à la prochaine.
Mais non, mais je ne veux pas avec lui.
Alors, la miss, t'as dit donc.
Déstresse un peu là, t'es déformée, c'est pas grave.
Aïe, aïe, attends,
non, c'est moi, non, bah, moi. Ça va, ta maman, Céleste?
Bah, non, elle a une phobie. Mais c'est pas sexuel, hein.
Ah, c'est chiant, c'est une machine. T'en aides, hein? Regarde là.
Merci.
Petit bisou. C'est facile à faire, hein, je peux. Ah non, t'es pas obligé de te piquer, hein. L'héroïne, ça se sniff.
Tu m'as dit qu'il avait juste eu des problèmes de drogue.
Bah, il en a plus, il a payé son dealer.
Mais arrête!
Non,
Samy!
Oh putain, je suis mort!
Allez, on y va, on le dit.
On marche pas sur les fiches de scie, là, madame.
Pourquoi vous m'appelez madame? Est-ce que je vous appelle Pépé, moi?
Pépé.
Tu l'as mis où, Samy, l'ordonnance?
Dans ton cul.
Il va mal.
Allez, on revient dans un instant avec Alexandra Lamy, Anne-Marie Vin pour faire le bilan, hein, en tant que jury évidemment, de cette 22e édition. Les réactions exclusives de tous les lauréats, c'est dans Chute en écoute la télé que ça se passe et on termine cette émission avec Jean-Yves Noiret, le maire de l'Alpe d'Huez. Alors ne bougez pas, on revient dans 3 minutes, à tout de suite.
Bouge pas, Chute en écoute la télé revient dans un instant, à tout de suite. Chute en écoute la télé, spécial festival.
Bonsoir madame la présidente.
Bonsoir.
Alors bilan de cette 22e édition en tant que présidente.
Alors c'était formidable parce que c'était très compliqué de faire une délibération. Et tant mieux parce que c'est vraiment compliqué dans le sens où on avait des super films. Avec des vraies bonnes histoires, avec des super acteurs, des super actrices. Bien réalisés. En fait on avait 8 films merveilleux. C'était extrêmement difficile la délibération. Mais on a réussi à plus ou moins être d'accord, et enfin on a réussi à être d'accord. Et là où on est très très heureux, c'est surtout qu'en fait tous les films qu'on avait envie, comme Jusqu'ici tout va bien, Rebelle, Mon bébé, Crevette pailletée, tout le monde a été récompensé et tous méritaient beaucoup, mais même les autres en fait. Mais bon voilà, on est très contents du palmarès.
Première chose qu'on s'est dit en tant que spectateur, Alexandra, on a dit non, on voudrait pas être à la place de jury parce qu'on a trouvé vraiment tous les films bien. Est-ce que les délibérations ont été difficiles?
Ah oui, comme je vous disais, les délibérations étaient très difficiles. Et nous encore, on avait 4 prix à remettre, mais je crois que la presse et bon, le jury, évidemment, il notait tout de suite. Donc bon, ça a été peut-être plus facile pour eux, je sais pas, mais en tout cas, c'était quand même très difficile. Et la presse, eux, ils se sont retrouvés avec les 8 films et en ne prendre qu'un seul, c'était extrêmement dur.
Ça n'a pas été trop compliqué avec Anne-Marie Vin?
Bah, Anne-Marie Vin, bon...
Je suis là, j'entends tout.
Le problème, c'est son physique.
Miss Alpe d'Huez 96.
Merci de le rappeler. Tu vois, monsieur n'est pas absolument pas
monsieur
surpris.
Monsieur s'en souvient.
Monsieur s'en souvient. Je me souviens même qu'on avait fait une interview. Non, mais c'était un jury tellement. Je sais pas comment ils sont. Les autres, à mon avis, ils sont moins bien que nous. Hein. Ça, c'est juste c'est impossible. Faut demander à Fred et Clément, mais je pense qu'il n'y aura pas de jury aussi bon que nous.
Et aussi beau.
Et aussi.
Moi, je peux vous dire, vous avez été extraordinaire.
Oh, merci. On le prend.
Et quel bonheur. On a vu des films sublimes.
Ah ouais, vraiment. Et puis toute l'organisation aussi du festival. Ah ouais. Franchement, ils font un boulot, Fred et Clément, merveilleux, mais c'est vrai, les bénévoles, la sécurité, les chauffeurs, tous les gens qui jouent le jeu dans la station, tout l'Alpe d'Huez, vraiment, non, c'est un petit bonheur.
Le mérite vraiment de rester indépendant, mais d'avoir énormément d'argent.
En attendant, chamboule tout, ça sera évidemment, vous serez à l'affiche de ce film, ouais. Ça sera le 3 avril.
Exactement, la sortie le 3 avril, avec donc ma comparse Anne-Marie Vin.
Anne-Marie Vin, Miss Alpe d'Huez.
Et qui viendra nous en parler avec Éric Lavenne.
Oui, évidemment. Avec grand plaisir.
Merci à toutes les deux, et à très vite.
À très vite, merci.
Chute en écoute la télé, spécial festival.
Alors après ce bilan d'Alexandra Lamy, évidemment, nous allons dérouler ensemble le palmarès, à commencer par le prix Globe de Cristal de la presse qui a été attribué au film Rebelle d'Alan Monnoy que nous avons rencontré pour vous à la cérémonie de clôture. Voici sa réaction.
Je suis hyper content, j'étais hyper content d'être là, je suis hyper content de repartir avec le prix de la presse. En plus, je trouve que c'est canon parce que ça donne un vrai premier indicateur. J'espère que ça va être suivi encore après par toute la presse régionale et nationale française pour la sortie du film. On a besoin du soutien de la presse parce qu'on est un film un petit peu différent, un peu ovni, et savoir que la presse est déjà derrière nous, je trouve que c'est juste génial, quoi. Et en plus, alors on n'a pas eu le prix du public, mais j'étais dans la salle quand on a diffusé Rebelle, quand on a projeté Rebelle, et j'ai senti la réaction du public, j'ai entendu la réaction du public, et je pense qu'on n'a pas trop démérité non plus de ce côté-là.
Le film sortira le 13 mars, et on aura le plaisir de te recevoir le 11 mars dans Chute en écoute la télé, avec Cécile de France et Audrey Lamy. Merci Alan.
À tout bientôt alors.
Le prix du court-métrage OCS a été attribué au film Pile-poil de Lauriane Escaffre et Yvonique Muller. On les a également rencontrés pour vous, voici leur réaction à chaud.
Eh ben on est comme des oufs. Voilà, il n'y a rien à dire, on est comme des oufs.
On reste digne hein, quand même. Mais
non, mais c'est magique.
Alors l'histoire en quelques mots de Pile Poil, hein, un très beau court-métrage avec Grégory Gadebois.
que moi j'ai trouvé formidable
et
dans
Madeleine
ce rôle.
Baudot.
Et Madeleine Baudot sur un premier rôle en plus.
Exactement. Alors c'est l'histoire d'un papa qui est boucher, sa fille veut être esthéticienne et lui il aimerait bien qu'elle reprenne la boucherie et le film commence quand Madeleine, donc qui est en CAP esthéticienne, cherche une modèle avec des poils pour passer son examen d'esthéticienne. Voilà.
Et elle trouve évidemment un modèle avec des poils jusqu'au moment où ce modèle lui fait faux bond. Elle devra trouver un modèle de remplacement.
Exactement.
Et je vous encourage à voir ce court-métrage. Où c'est qu'on peut le voir aujourd'hui? Est-ce que, alors, il aura une diffusion, évidemment, comme vous avez été primé?
Mais alors, il était déjà en fait préacheté par OCS, qu'il avait acheté sur Scénario. Donc, il va passer là, je pense, fin janvier, début février.
Et alors, la suite, maintenant, est-ce que ça vous donne des envies de long et de décliner cette histoire en version longue?
Exactement, vous avez tout deviné. On a une très très grande envie de le décliner en long métrage, et c'est ce qu'on a commencé à faire.
Écoutez, merci en tout cas. Et dernière question, ça représente quoi pour vous d'être primé à l'Alpe d'Huez?
Eh ben, c'est assez spécial parce que c'est un festival avec lequel on a une histoire, on va dire un historique. On est venu la première fois en tant que comédien dans un court-métrage de quelqu'un d'autre. Et on a tout de suite adoré le festival, son ambiance, les films qu'on a vus, etc. Et donc le fait d'arriver aujourd'hui avec notre histoire et notre film à nous, et en plus sortir avec le Grand Prix, c'était juste génial.
Le prix d'interprétation masculine a été attribué à François Civil pour le film Mon Inconnu de Hugo Gélin. Pour le prix d'interprétation féminine, c'est Sandrine Kiberlin qui l'emporte avec le film Mon Bébé de Lisa Azuelos. Voici sa réaction.
Bah, on est hyper contente, je suis très contente pour Lisa, qu'elle soit saluée pour un film qu'elle a porté comme son titre le montre, et c'est un rôle merveilleux qu'elle m'a offert, donc d'avoir le prix d'interprétation et qu'elle ait le grand prix, c'est vraiment génial. C'est une soirée très belle pour nous.
Bien, je vous attends le 11 mars pour venir en parler aux côtés de Thaïs et de Lisa dans Chute en écoute la télé. Merci et à bientôt.
Avec plaisir, merci.
Un prix spécial du jury mérité pour les crevettes pailletées de Cédric Le Gallo et Maxime Govard qui sont à notre micro.
Bah, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. On a vécu une journée chargée en émotions. On a présenté le film, on a obtenu un prix. Il y avait une sélection incroyable. Ça va donner une vraie chance au film de, voilà, d'être vu, d'exister. Donc c'est super.
Et Eric Elmosino a eu des mots incroyables au sujet du film avant de nous décerner le prix. C'est dingue, quoi. Il a parlé de toutes les valeurs en fait qu'on veut véhiculer dans ce film, et avec une justesse. Vraiment une justesse dingue, donc merci à lui, merci au jury. C'est des gens qu'on admire pour leur travail, et que ce soit eux qui nous desservent un prix pour notre travail, c'est très très émouvant, et ça valide plein de choses. Donc voilà, ça devient très concret tout d'un coup tout ça.
Le film sortira le 8 mai au cinéma, un rendez-vous à ne pas manquer. Et le 6 mai, eh bien, nous aurons la chance dans Chute en écoute la télé d'accueillir toute l'équipe qui seront avec nous. Je vous attends les garçons. Et bonne chance pour la suite.
On se voit le 6 mai.
Le prix du public Allociné a été attribué au film Jusqu'ici tout va bien de Mohamed Hamidi, qui renouvelle la prouesse après La Vache. Voici sa réaction.
Bah, je suis très heureux. Je sais que c'est très important d'avoir un prix du public ici. Je sais que c'est de bon augure pour la vie du film. Je sais que pour moi c'est un prix très important parce que c'est les gens qui jugent, et j'ai été déjà très satisfait au moment de la projection parce que j'ai entendu le public réagir et rire. Et là je suis encore plus heureux qu'ils aient choisi mon film pour décerner ce prix. Je suis super content.
L'histoire en deux, trois mots.
Non, l'histoire, c'est la rencontre entre Paris et la banlieue. C'est un chef d'entreprise qui est obligé de s'installer à la Courneuve, qui n'y va pas de gaieté de cœur, et qui finalement rencontre là-bas des gens qui vont l'aider à mener à bien son entreprise. C'est un film qui est un film de rapprochement, de discussion, de conversation.
Et bien, en tout cas, vous viendrez en parler le lundi 25 février, parce qu'il sort le 27.
Exactement, le 27 février.
Et vous viendrez avec Anne-Elisabeth Blateau et Sabrina Ouazani pour en parler. Merci Mohamed, et à très très vite. Et juste avant de terminer cette émission avec Monsieur le maire Jean-Yves Noiré, Monsieur le maire de l'Alpe d'Huez, voici le grand prix OCS du festival et attribué à Mon Bébé de Lisa Azuelos. Voici Lisa Azuelos à notre micro.
C'est une merveille pour moi, vraiment ça me fait un bien fou de recevoir ce prix. Je suis trop heureuse, je suis heureuse pour toutes les mamans du monde, je suis heureuse pour tous les êtres humains du monde. Je suis heureuse d'avoir reçu un prix qui me dit que ce que je fais, finalement, ça a un peu d'écho quelque part. Ça fait du bien.
On peut le résumer en deux mots, humour et amour, ce film.
Humour et amour, et vice-versa.
Alors, l'histoire en deux, trois mots.
C'est une maman qui anticipe un petit peu le départ de sa fille, qui va bientôt s'en aller, sa dernière fille. Et donc, il va se retrouver toute seule à la maison. Voilà, c'est leur souvenir et leur vie, et voilà.
Ça sort le 13 mars au cinéma, et vous viendrez en parler avec votre fille Thaïs Alessandrin et Sandrine Kiberlin dans l'émission. À très vite, et merci Lisa.
Merci beaucoup.
tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Allez, on va terminer cette 22e édition, hein, comme d'habitude, avec le mot de monsieur le maire Jean-Yves Noiret qui nous accueille ici à l'Alpe d'Huez. Bonjour Jean-Yves.
Bonjour.
C'est une habitude maintenant de terminer cette émission de mi-janvier ensemble. C'est un bilan plus que positif pour cette 22e édition, une pléiade de stars, encore plus de films. Et franchement, vous devez être un maire ravi.
Alors en fait, d'abord, merci de revenir chaque année et de revenir cette année encore. Effectivement, c'est une belle édition, une fois de plus. Beaucoup de médias, beaucoup de retours positifs, très positifs même. Une présidente du jury, Clément et Fred, disent que je suis tombé amoureux. Non, c'est pas le cas. C'est simplement que j'ai trouvé qu'Alexandra Lamy était une très très grande professionnelle et que c'était vraiment un plaisir de l'avoir cette semaine avec nous.
On sent que ça devient un rassemblement d'amis et qu'ils ont plaisir à se retrouver ici pour présenter leur nouveau film, pour présenter leur nouvelle production.
Ah, faites bien de le dire parce que c'est exactement ça. Alors, ce sont des amis, des gens de terrain, Valérie Damido, tous les bénévoles qui sont avec nous, les gens qui vraiment mettent en place les décors, mettent en place tout ça. Et puis, tous les bénévoles qui sont autour, qui en fait ne laisseraient pas leur place pour rien au monde. Parce qu'ils sont bien, ils sont bien reçus, ils sont pris en considération et toute l'organisation, très sincèrement, est une belle réussite. Et nous, on est ravis de voir que ça crée vraiment un lien entre toutes les personnes de l'Alpe. Et tant mieux, et pourvu que ça dure.
Alors, quel a été le moment le plus fort pour vous de ce festival? Je suppose la remise, par exemple, jeudi soir, du trophée à Alexandra.
Oui, c'est un bon moment parce que du coup, c'est aussi l'occasion de faire un gros clin d'œil au département. Département qui pense de plus en plus au ski, puisque dans son nouveau logo maintenant, Alpizia en anglais. Et du coup, c'est vrai que c'est un plaisir de bosser avec le département. Et ce soutien qu'apporte le département au festival est un soutien important pour la station parce que ça nous permet de garder le même nombre de jours, là, une semaine entière. C'est bien que le département s'associe aussi à la montagne.
L'année dernière, on en parlait ensemble, hein, c'était vraiment encore un peu prématuré hein, d'évoquer tout ça, mais ça y est, Tomorrowland arrive à l'Alpe d'Huez. Ça sera du 9 au 16 mars prochain que les DJ, les plus grands DJ vont investir la station d'Alpe d'Huez pour un Tomorrowland Winter avec au programme par exemple Steve Aoki qui fait des shows absolument spectaculaires. Il va vraiment y avoir des DJ les plus reconnus au monde. Hein.
Ah oui, c'est un tout autre événement hein, qui cible pas les mêmes personnes, pas du tout le même impact, on va dire, au niveau média. Mais par contre, une belle semaine qui se profile au mois de mars. Aujourd'hui, on a 20 000 places réservées déjà, achetées. Par contre, on a 30 000 personnes sur liste d'attente. Ça nous déçoit un peu parce que on n'a pas suffisamment de lits pour arriver à accueillir tout le monde. Mais ça veut dire que l'année prochaine, on pourra peut-être en faire deux la même semaine pour satisfaire toutes les personnes qui sont inscrites cette année et qui malheureusement n'ont pas pu venir.
Donc vous souhaitez évidemment une belle édition. On se dit à l'année prochaine.
On se dit à l'année prochaine. Merci de votre présence chaque année. C'est un grand plaisir de vous accueillir.
À l'année prochaine. Merci beaucoup Jean-Yves d'avoir terminé cette émission avec nous. Juste un petit mot également pour remercier nos partenaires, hein, Volkswagen Marraine qui nous a véhiculés jusqu'ici. Et puis des partenaires fidèles hein, ici aussi à l'Alpe d'Huez puisque nous avons l'hôtel Le Castillan qui nous aide beaucoup. Et puis le restaurant L'Authentique. On remercie René Pelletier évidemment et la famille Castillan voilà, de leur aide et qui nous permettent d'être là chaque année avec vous. C'est des partenaires fidèles de notre venue, Monsieur Noiret.
C'est super, merci à eux et c'est parfait si vous arrivez chaque année à revenir, à retrouver les mêmes personnes, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est une grande famille.
Exactement, à l'année prochaine, merci à tous et puis on se retrouve évidemment dès demain pour la quotidienne de Chute, on écoute la télé et là ça sera plus l'Alpe d'Huez mais on va continuer notre émission évidemment et lundi prochain il y aura évidemment plein de belles choses à venir, on vous en dira plus tout au long de la semaine et pour voir toutes les photos qu'on a fait à l'Alpe d'Huez, rendez-vous sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé, à très bientôt et rendez-vous demain pour les quotidiennes. À bientôt.
Chut, on écoute la télé. Avec DSM Fabricant, votre spécialiste du revêtement sol et mur sans raccord sur diffusionsolmur.fr.
Chut, on écoute la télé avec vos boucheries du bœuf tricolore. Viande 100% française. Deux adresses à votre service. Avenue du 11 novembre à Rochefort et route de Rochefort à Royan.